Cuisez maintenant et portez-en au maître du festin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile de ce dimanche, chers fidèles, nous transporte à Cana de Galilée, où a eu lieu le tout premier miracle opéré par notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci venait juste de quitter sa famille pour commencer son apostolat, après 30 ans d'une vie simple et laborieuse. Il laisse derrière lui la vie familiale, mais il ne la dédaigne pas, il ne la condamne pas, bien au contraire. Par sa présence aux noces, il confirme le mariage, mariage ancien, et il fait quelque chose de plus, il l'élève, le transforme. Il en fait même un sacrement auquel il donne une grâce, une puissance de sanctification inconnue avant lui. C'est pour cela que Jésus-Christ y opère le changement de l'eau, d'une matière sans goût, en vin, matière plus noble, plus excellente. Voilà le premier mystère que notre évangile nous dévoile. Mais il y en a un autre, plus spirituel, et dans un sens, mystère plus réel que le premier. Il s'agit des noces spirituelles, du mariage que le Sauveur veut contracter avec chaque âme en particulier. Il aspire de toutes ses forces à une union intime et constante. Et pour le réaliser, il se sert du sacrement. Il opère un autre changement. Le pain en son corps, le vin en son sang. Nous allons voir premièrement comment le divin époux de notre âme agit en nous quand nous communions. Ce sera la question des effets, des fruits de la Sainte Communion. Et deuxièmement, comment notre âme doit y répondre pour ne pas gâcher ces précieux fruits. Ainsi, nous allons parler de nos dispositions que nous devons apporter quand nous communions. D'abord, les effets de la Sainte Eucharistie. Ils se résument dans cette parole de notre Sauveur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ce quelqu'un indique les effets individuels de la Sainte Communion, la vie éternelle pour chaque homme qui la reçoit bien sûr dignement. Et cette chair pour la vie du monde, ce sont les fruits généraux de l'Eucharistie, la vie du monde dans son ensemble. Les effets individuels, ce n'est rien d'autre que le don de la vie du Christ à son communion. Le don de la vie du Christ à son communion. Non pas la naissance à la vie spirituelle, l'œuvre propre du baptême, mais l'accroissement de cette vie intérieure. Prenons un exemple. Une maman, après avoir donné le jour à son enfant, ne s'en contente pas, heureusement pour l'enfant, mais elle continue à lui donner la vie, lui donne même quelque chose de sa propre vie, quand elle le nourrit du lait qui est tiré de son propre corps, de sa propre substance. De même, notre Seigneur, au baptême, il donne sa vie divine et puis il la fait grandir en nourrissant notre âme. Et comment la nourrit-il? Comme une mère avec son nourrisson. De sa propre substance, il donne à l'âme tout lui-même et lui donne sa propre vie. Dieu, bonté infinie, étant infiniment riche, infiniment libéral, quand il se donne à une âme, surtout âme communiante, les effets individuels de l'Eucharistie sont bien multiples. Le premier, c'est l'augmentation considérable de la grâce sanctifiante, un essor gigantesque de la vie divine. La chose est facile à comprendre, puisque en communion, on reçoit l'auteur même de la grâce, la source même de toute la bénédiction spirituelle. Pour l'expliquer davantage, avec une image, entrant dans l'atelier de l'orfèvre, atelier de l'orfèvre. Que fait-on pour dorer un objet quelconque? Une cuillère, un chandelier, un calice. On le met dans l'or liquide, on fait passer du courant électrique et notre cuillère, notre chandelier, notre calice se couvrent d'une couche très fine d'or. Et quel rapport avec la Sainte Communion? L'Eucharistie fait beaucoup mieux pour notre âme que le courant électrique pour un objet trempé dans le liquide d'or. Notre âme est non seulement dorée de l'extérieur, mais elle devient, dans la Sainte Communion, de l'or même. Elle devient toute divine, toute pénétrée de la vie même de Dieu. L'auteur de la grâce n'est pas au chômage dans notre cœur. Il pénètre toutes les facultés de notre âme, tout comme la nourriture corporelle que nous assimilons vivifie toutes les parties de l'organisme. Le sang de Jésus-Christ coule dans nos veines, sa chair est mêlée à la nôtre. Jésus-Christ, qui est la lumière, ranime notre foi, foi souvent si faible et chancelante. Ainsi nous sommes plus pénétrés des vérités de notre sainte religion. Jésus-Christ, qui est la vie, fortifie notre esprit. Nous devenons plus fermes dans les combats spirituels, plus résistants dans les épreuves et les tentations. Jésus-Christ, qui est la charité, purifie nos intentions dans tout ce que nous faisons, et notre amour à l'égard de Dieu s'enflamme de plus en plus. Après l'augmentation de la grâce sanctifiante, le deuxième fruit que chacun de nous peut espérer de la Sainte Communion, c'est que la Sainte Communion est le gage et le prélude de la vie éternelle. Disons seulement que l'Eucharistie communique au corps de l'homme une telle noblesse qu'il suffirait en soi de ne la recevoir qu'une seule fois pour avoir l'assurance de la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Selon cette promesse du Sauveur, quiconque mange ma chair et boit mon sang, cela veut dire celui qui communie, possède déjà la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ces deux effets, augmentation de la grâce, gage de la vie sans fin, sont suivis d'un innombrable cortège d'autres effets. Donnons-en trois seulement. Là où la charité devient plus ardente, l'attachement au péché s'éteint petit à petit. La Sainte Communion diminue cette emprise du péché, surtout celui mortel, sur notre âme. Elle efface les fautes légères, tout comme une nourriture saine et abondante remédie aux faiblesses de l'organisme. Et cette purification est suivie de tout près du fait que le péché devient de plus en plus rare. On résiste plus énergiquement aux offensives du mal. On sent un nouveau goût pour les choses du ciel et le mépris pour les choses d'en bas, choses défendues nuisibles pour notre âme. Après la purification et la raréfaction du péché, l'Eucharistie influe considérablement sur notre apostolat et l'on est même une condition incontournable. Nous sommes, chers fidèles, tous apôtres, tous, du fait même que nous sommes catholiques. Nous devons être témoins de notre foi et peut-être un jour, nous serons tous obligés de la témoigner tout haut et tout clairement. Le but de l'apostolat n'est pas uniquement de savoir défendre notre foi, de la rendre attrayante, intéressante, ce qui demande une formation intellectuelle, doctrinale préalable. C'est surtout, avant tout, de surabonder de vie divine, pour la répandre ensuite sur les autres. D'où vient que la moisson que nous récoltons de nos paroles, de nos actions, est si misérable? Parce que, chers fidèles, l'Eucharistie n'est pas au centre de notre vie. Et ce n'est pas à se dire. C'est que nous n'avons pas la vie eucharistique. Notre Seigneur est en nous, c'est vrai, mais il ne vit pas en nous. Il est comme emprisonné, enchaîné. Son action ne peut pas, à cause de notre faute, déborder à l'extérieur. On ne comprend pas du tout cette parole du Sauveur. Elle n'est pas incarnée dans notre vie, la voici. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Pas de fruits sans demeurer en lui. Demeurer en notre Seigneur, demeurer avec notre Seigneur dans la Sainte Communion, c'est m'y entretenir avec lui dans un cœur à cœur. Il parlera aux autres par ma bouche. Ma parole ne sera plus stérile. C'est aussi m'unir avec celui qui est la joie des joies, la joie véritable que le monde n'est pas capable de trouver et qu'il recherche pourtant. Ce monde infiniment triste, ce monde infiniment blasé, retrouvera le bonheur infini sur mon visage, dans mon comportement, à condition si je prends moi-même la peine de le chercher là où il est, dans la Sainte Communion. Nous avons vu quelques effets individuels de l'Eucharistie. Voyons-en maintenant juste un effet général. C'est l'union aux autres membres du même corps, corps mystique de notre Seigneur, dont tous les baptisés font partie. Comment comprendre cette incorporation? Saint Thomas d'Aquin, en bon pédagogue, nous l'explique en donnant l'exemple le plus terre à terre du monde, celui de la nourriture. Cela s'applique bien à l'effet de l'Eucharistie, mais en un sens inverse. Écoutons-le. Quand nous prenons un bon déjeuner, la nourriture est assimilée par l'organisme. Assimilée, elle devient semblable, elle s'identifie à lui. Organisme qui l'absorbe et elle devient sa substance. L'aliment divin, au contraire, tend à changer en lui-même l'âme qu'il nourrit. Ce n'est pas toi qui me changeras en toi, dit notre Seigneur à saint Augustin. C'est moi qui te changerai en moi. Nous comprenons maintenant, chers fidèles, que quand nous recevons Jésus-Christ, lui qui est mort, aussi bien pour ses amis que pour ses pires ennemis, la haine ou seulement l'indifférence pour tous ceux qui nous ont causé quelque peine, devrait disparaître, faire place au pardon, à la miséricorde, miséricorde à l'égard de la misère temporelle et surtout spirituelle de mon prochain. Voilà les effets individuels et généraux de la Sainte Communion. Par la force des choses, ainsi gratifiées, nous devrions être saints depuis longtemps. Est-ce le cas? Plutôt pas. C'est parce que nous ne sommes pas à la hauteur de notre tâche quant à nos dispositions et à notre coopération qu'on nous communions. Si nous ne savons pas comment devons-nous y être disposés, saint Thomas d'Aquin nous vient en aide avec sa prière avant la Sainte Communion. Vous pouvez la trouver dans vos missels. La voici. Dieu Tout-Puissant, voici je m'approche du sacrement de votre Fils unique. Je me présente, écoutons-le bien, je me présente infirme au médecin de la vie, impur à la source de miséricorde, aveugle au foyer de la lumière éternelle, pauvre et indigent au maître du ciel et de la terre. Infirme, impur, aveugle, pauvre, c'est tout simplement d'avoir l'intention droite de m'unir à Dieu par la charité et par ce divin médicament remédier à mes infirmités et défauts. C'est la préparation. Il nous reste de faire quelque chose de très important après. Faire une action de grâce, bien sûr. Et ensuite, mettre en œuvre les grâces reçues. Travailler de concert avec Jésus-Christ. Consentir à aller aussi loin et aussi haut qu'il veut m'emporter. Prions notre Mère Immaculée de nous obtenir de son Fils de vivre pleinement de sa vie divine, vie puisée à pleine main dans la Sainte Eucharistie. De déverser cette vie sur les autres, comme elle le faisait elle-même, à partir de l'Annonciation jusqu'à sa dernière communion, communion au viatique, avant son Assomption. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.